Un pas de côté, Jérôme Vuittenet, chapitre 32. Anthony rejoignit la capitale avec une profonde lassitude. Déjà, son activité professionnelle ne l'intéressait plus. Quand il voyait ses oncles, et son père parfois, attendre l'âge de la retraite comme une libération, il ne comprenait pas que l'on pût souhaiter vieillir. Il ignorait l'érosion rapide de toute ambition professionnelle confrontée au monde du travail et ses conséquences sur la motivation au quotidien. Malgré cela, comme tout le monde, il parvenait à faire preuve de suffisamment d'abnégation pour exercer son métier de la meilleure façon. Sa boutique tournait, il prenait de bonnes décisions et gérait au mieux son équipe de vendeurs qui appréciait globalement sa justesse et son humanité, malgré les inévitables tensions qui pouvaient exister au sein de l'équipe. L'arrivée d'une nouvelle vendeuse en remplacement de celle qui continuait son congé maladie apaisa la fatigue et le stress accumulés. Du côté d'Audrey, en revanche, le climat était de plus en plus tendu. On fit comprendre à Anthony que l'appartement qui avait été mis à sa disposition devait être libéré, officiellement pour effectuer des travaux. C'est le père d'Audrey lui-même qui s'était chargé de l'en informer par téléphone, en inventant une histoire de normes de sécurité qui ne convainquit guère Anthony. Cela étant, il chercha sans déplaisir un autre logement, moins grand et plus personnel que celui-ci, qu'il trouva assez rapidement grâce à ses moyens financiers confortables. Il était situé un peu plus loin de son magasin, mais à quelques minutes seulement en bicyclette, moyen de transport qu'il choisit de privilégier à partir de ce déménagement. Il dut s'équiper de quelques meubles et de matériel électroménager qu'il choisit pour leur sobriété énergétique et leur fabrication éthique. Néanmoins, il n'était pas dupe des étiquettes trompeuses qui affichaient des qualités écologiques incroyables sur des appareils honteusement énergivores. La plupart d'entre eux étaient par exemple équipés de veilles inutiles pour afficher l'heure qu'on avait déjà partout ou pour accélérer leur démarrage de quelques secondes. Derrière ces appareils à l'obsolescence programmée, il y avait comme lui des vendeurs, des gérants, des fabricants et leurs ouvriers dont l'unique but était de gagner leur vie. Emportés dans le vortex de la concurrence, du coût de la vie et aspirés par le progrès technologique et la nécessaire croissance économique, tous étaient mus par une force invisible et destructrice, une secte sans gourou qui les conduisait au suicide collectif. En être conscient n'y changeait même rien, tant l'écart à la norme était coûteux et risqué. Le pas de côté qu'avait amorcé prudemment Anthony commençait déjà à provoquer son exclusion implicite du système. Pouvait-on seulement survivre à l'extérieur, dit celui ? Jean-Jacques semblait en être la preuve vivante, mais aurait-il son courage et ses qualités ? Anthony observait par sa fenêtre les toits gris de Paris. La ville était belle et effrayante. Toutes ces âmes humaines qui collaboraient tout en se livrant à une guerre économique sans merci. Dans le jeu de chaises musicales du marché, il y aura des perdants quand la musique s'arrêtera. C'était une certitude et elle était effroyable. Mais personne ne savait comment changer les règles du jeu. Sa recherche d'appartement et le déménagement qui suivit l'empêchèrent de revenir en Ardèche comme il avait prévu de le faire pour revoir Marion. Il lui écrivit une lettre pour s'en excuser et pour qu'elle lui fasse connaître les dates de ses prochaines missions scientifiques. Il espérait ainsi pouvoir la rencontrer et prendre le temps de discuter avec elle, lui faire part de son état d'esprit du moment. En postant la lettre, il pensa à celle qu'il lui avait envoyée alors qu'elle était en Antarctique, et qui lui était revenue sans jamais avoir été ouverte. Le ton de cette nouvelle lettre était beaucoup plus neutre et les sujets abordés beaucoup moins personnels. Il espérait qu'elle ne prendrait pas ça pour de la froideur, il se demandait constamment quelle était la bonne formule avec elle. Il reçut une réponse quelques jours plus tard à sa nouvelle adresse qu'il n'avait pas manqué de mentionner dans son courrier. C'était la toute première enveloppe qu'il trouva dans sa boîte aux lettres, il en reconnut l'écriture au premier coup d'œil et son cœur se mit à battre de façon irrégulière. Comment quelques caractères manuscrits pouvaient-ils provoquer pareil émoi ? Il entra chez lui précipitamment et jeta ses affaires sur une chaise pour ouvrir l'enveloppe. Elle contenait un message écrit de la main de Marion et un morceau de carte IGN avec une croix tracée à l'encre bleue en son centre. « Cher Anthony, j'ai bien reçu ton courrier et t'en remercie. Je regrette moi aussi que nous n'ayons pu nous rencontrer lors de ton dernier passage en Ardèche, d'autant qu'au dire de mon père, il m'aurait plu de participer à la discussion que vous avez eue. J'ai cru comprendre que ma dernière lettre et tes récentes expériences personnelles avaient bousculé tes idées reçues sur le progrès et la technologie. Aussi ai-je eu l'idée saugrenue de te lancer un défi. Tu trouveras, jointe à ce message, une carte indiquant d'une croix un point précis. Sauras-tu t'y rendre depuis chez tes parents sans utiliser un seul outil, appareil ou moyen de locomotion fabriqué après le 19e siècle? Je t'y attendrai le 16 mai à partir de 15 heures. Marion.